www.facebook.com/ondazzurra. Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Bonsoir, Kaola, good evening, vous êtes sur Amuse-Gueule, une émission comme de coutume placée sous le signe de la jeunesse et de la beauté, puisque je suis encore une fois très très joliment entouré. Bonne fête des pères à vous tous les damnés. Ce soir nous allons parler de Mireille d'Arc, bien sûr, parce qu'il le faut. Parce qu'elle le vaut bien. On va parler aussi de podcast, une émission très légère entre 6 et 7 où je me serais voulu, fête des pères oblige, bien mieux allongé, telle une vieille baleine en robe de chambre près de la cheminée. Mais non, je suis là au rendez-vous comme un bon petit soldat. Anne-Sophie est à la technique. Anne-Sophie, bonsoir.
Bonsoir.
Et Katie est seule, plus ou moins sur scène.
Bonsoir, on
commence tout de suite en musique avec une émission, une musique qui s'appelle, une chanson qui s'appelle J'attendrai. Non, j'ai entendu beaucoup de bêtises autour de cette table. Oh, c'est Charles Trenet. Non, Charles Trenet s'adressait aux filles et aux garçons. Là, il s'agit bien de Tina Rossi, dont le timbre subtil est essentiellement masculin.
Tina Rossi, c'est un nom que j'ai pas entendu depuis 20 ans.
Bah, depuis petit Papa Noël, au moins.
Ah non, mais j'ai pas entendu son nom.
C'est un homme qui était célèbre pour manger des cigales au petit déjeuner. On les entendait dans sa voix.
Je les entends pas.
Non, c'est vrai que Tina Rossi n'est pas récurrent dans nos conversations.
Non, plus maintenant.
J'avoue.
Plus maintenant.
Eh bien, c'est une perte.
Bah ouais.
C'est dommage.
Mais je juge pas, je dis juste que je vais dans le sens.
Mais si tu juges, je te vois bien. Tu montes sur ton petit strapontin, là, tu essaies de prendre un peu de hauteur. Non, j'ai senti le souffle du mépris.
Ah, pas du tout.
Si, si.
Pas du tout. Non, mais j'abondais juste dans le sens d'Anne-Sophie, disant que bon, c'est vrai que on n'a pas l'habitude d'en entendre parler.
Ah, bah, je vous en remets une deuxième.
Ah, non, c'est bon.
Ah, voilà.
Ah, ouais, non,
c'est
bon.
Tombé dans mon piège.
Ah, non, là, c'est bon, là.
Katie, tu veux nous parler ce soir?
Oui, de Mireille d'Arc. Ben oui, Mireille nous a quittés. Et c'est vrai que quand j'ai appris sa mort, donc elle est morte le 28 août, et quand j'ai appris sa mort, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est une actrice que je mettais pas au panthéon des grandes actrices. Pour moi, c'était une grande blonde.
C'est la fameuse apparition.
Voilà, avec cette robe noire, ce décolleté vertigineux dans le dos. Et bon, le grand blond avec une chaussure noire. Et pour moi, c'était tout, quoi. Et néanmoins, j'ai eu envie un petit peu de lire tous les articles qui sont sortis sur elle après sa mort. Et c'est vrai que soudain, j'ai découvert un personnage multifacette. Et ce qui m'a particulièrement émue, c'était ce côté que je ne connaissais pas d'elle du tout. C'est qu'elle était devenue, depuis pratiquement une vingtaine d'années, réalisatrice de documentaires.
Ah bon ?
Oui. Et de documentaires très 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 intéressant, parce que elle s'intéressait à tous les laissés pour compte de la société. Et donc elle a fait beaucoup d'interviews sur les prostituées, et son dernier documentaire, c'est tout un reportage sur les femmes SDF. Alors c'est hyper émouvant, parce que tout d'abord, en tant que, c'est elle qui va interviewer tous ces gens dans la rue, et jamais on ne la voit. Elle est complètement en retrait. Elle leur laisse la parole. Et en fait, elle fait tout pour leur rendre leur dignité. Et c'est vraiment très, très émouvant, parce que donc le documentaire sur les femmes SDF, elle interviewe neuf femmes. Et à chacune, elle laisse le temps pour qu'elle s'exprime, qu'elle explique qu'est-ce qui l'a amené là où elle est. Et en fait, si tu veux, la leçon de vie, c'est que bon, personne n'est à l'abri de ça. Toutes ont des histoires bien sûr différentes, mais on se rend compte que ça pourrait nous arriver à toutes. Et jamais elle ne juge, jamais elle n'émet quoi que ce soit comme il faut, tu dois, tu devrais, non. Elle les laisse parler. Et on sent que, d'ailleurs, il y en a une qui le dit, qui l'appelle, qui l'interview, et qui lui dit, mais Mireille, on est tellement contente que tu nous laisses cette possibilité de nous exprimer, de pouvoir dire aux gens que nous, on n'est pas contente d'être SDF, et que si on traîne dans la rue, c'est parce qu'on l'a pas choisi, et qu'on veut s'en sortir. Et ces femmes s'adresse à elle directement, et on sent qu'elles sont flattées que Mireille d'Arc, l'égérie du cinéma français, vient vers elle humblement pour leur donner la parole. Alors, il y a une multitude. En fait, j'ai découvert qu'elle a fait au moins une dizaine de documentaires. Et le premier documentaire, c'est un documentaire sur les dons d'organes. Parce que, bon, je ne savais pas, hein. Pour moi, c'était vraiment ça. C'était l'actrice qui a vécu une dizaine d'années avec Alain Delon. Et puis après, je ne sais plus ce qui lui est arrivé, tu vois. Et là, bon, elle avait un compagnon avec qui elle a vécu pendant de nombreuses années et qui est mort suite à une greffe de foie. Et donc, elle s'est intéressée au don d'organes. Donc ça, c'est le tout premier documentaire qu'elle a fait. Et ensuite, elle s'est intéressée essentiellement aux femmes. Et elle le dit elle-même, elle dit pour moi, donc voilà, elle faisait souvent, avant que ces documentaires ne paraissent à l'écran, elle venait bien sûr faire la promotion de ces documentaires, et elle le disait elle-même, elle ne s'en cachait pas, elle disait, pour moi, réaliser ces sujets, c'est comme une sorte de thérapie. sans la forme documentaire, je paraîtrais trop curieuse. À travers le documentaire, je me donne la possibilité d'approcher les autres de manière plus profonde. Toutes les démarches de femmes fortes m'intéressent. Donc, voilà, je vous invite d'ailleurs à regarder ces documentaires parce qu'ils sont sur YouTube. Moi, je les ai regardés sur YouTube.
J'allais justement te demander où est-ce qu'on les regarde.
Voilà, sur YouTube, vous tapez Mireille Darc documentaire et il y en a une série comme ça qui vont apparaître. Mm. Donc, moi, je pense que c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de découvrir ce côté profond de cette femme, parce que j'avoue que moi je faisais partie de ces gens avec des préjugés et je l'imaginais comme une belle ingénue qui se contentait voilà de son look et que c'est du tout le cas.
C'est vrai, on la connaît pas bien, moi je la connais pas bien comme toi, pareil, le grand blond à chaussures noires là ou je sais pas quoi blanche ouais. Et voilà et c'est tout et quelques films où elle joue des seconds rôles, enfin des premiers rôles féminins, mais qui sont plutôt en retrait, puis c'est tout, quoi. C'est pas, enfin, où elle utilise sa beauté. Mais oui, je n'ai pas, mais elle n'a pas beaucoup fait parler d'elle personnellement, elle ne sait pas. Et puis elle a arrêté d'être actrice il y a longtemps, quand même, maintenant.
C'est vrai qu'on l'a surtout, enfin, elle a été dans les, c'était plutôt dans les années 60-70,
bah ouais.
C'était la génération de nos parents.
Ouais.
Et que nous, Mireille Darc ne fait vraiment pas partie des. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais en dehors du Grand Blond et de la Chaussure Noire, je ne sais pas dans quel film que je l'ai vu.
J'étais incapable de me souvenir d'un film avec elle. Hein.
Bah, elle a eu que des seconds rôles, et oui, je la vois dans des films de gangsters, avec Alain Delon notamment. Mais sinon, ouais. Mais toujours impeccable, enfin, toujours très belle, et qui joue bien, qui incarne bien son personnage de. Blonde dangereuse.
Mais c'était aussi intéressant parce que, bon, pour préparer cette émission, c'est vrai que, bon, en dehors de visionner les documentaires, je regardais aussi toute une émission qui lui était consacrée. Et pareil, un petit côté très émouvant parce que ça raconte son histoire et qu'elle est vraiment issue d'une famille pauvre. Une famille pauvre où on ne s'est jamais vraiment occupé d'elle, on l'a toujours délaissée. Et elle avait qu'une seule envie, c'était de s'épanouir, de prouver à sa famille qu'elle peut réussir sans eux. Et donc, elle est de Toulon, et puis dès 14 ans, ses parents ne s'en occupant pas, elle pouvait rentrer à n'importe quelle heure, et elle sait, elle est comme moi, elle est de mai, c'est un taureau, et elle a décidé de prendre le taureau par les cornes et de se dire, voilà, je vais y arriver, je vais m'en sortir, j'ai pas envie de rester avec une famille qui s'occupe pas de moi, je vais devenir quelqu'un, et pour devenir quelqu'un, faut que j'apprenne à m'exprimer, donc elle va partir prendre des cours d'élocution, elle part au conservatoire et elle disait j'ai jamais été, les garçons ne se sont jamais intéressés à moi, ils me voyaient juste une espèce de grande brune, parce qu'elle était brune en plus, une grande brune sans forme et tout, jamais les gens s'intéressaient à moi et je voulais qu'on me regarde et pour moi la meilleure façon qu'on me regarde c'était d'être blonde et d'être actrice. Donc dès qu'elle économise un petit peu, elle monte à Paris, et à Paris, ben, elle a de la chance, elle rencontre des cinéastes qui la prennent sous son aile, elle devient très copine avec Audiard, et Sony, elle ne lie que des amitiés très fortes masculines, et ce sont ces gens-là, dans le milieu du cinéma, qui vont lui accorder l'attention dont elle a besoin, et qui l'aide à éclore. Et littéralement, c'est ce qu'elle va faire à Paris. Et elle disait, moi, j'étais sous les feux des projecteurs, et ma famille disait, elle est partie faire la pute à Paris. Mais qu'elle était très consciente que, bon, il s'en fallait pas de peu pour qu'elle fasse la pute, justement, à Paris, parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, et qu'une fois, elle s'est retrouvée dans une situation où on lui a proposé, dans une maison close, de venir regarder des ébats sexuels. Elle a été payée, plus qu'elle n'a jamais été payée à l'époque pour le faire, et qu'elle a eu énormément de chance, et qu'elle est tombée sur un gars qui était un producteur de cinéma, et qui lui a dit qu'elle n'avait rien à faire là. Et qu'il allait lui présenter du monde. Donc elle a toujours été très très reconnaissante aux hommes du milieu du cinéma qui l'ont aidée à devenir ce qu'elle est. Mais une fois qu'elle a fait tous ses films, qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, qu'elle a eu l'attention qu'elle voulait, ben elle a tiré un trait là-dessus, elle a décidé de se consacrer plus à elle-même, sa personne à elle. Et une fois qu'elle est devenue réalisatrice de documentaires, ça ne l'intéressait absolument plus qu'on parle de cette époque du cinéma, même si ça revenait inévitablement dans toutes les interviews qu'elle faisait, mais elle mettait tout de suite le journaliste à sa place en disant « Oui, j'ai bien vécu, j'en ai bien profité, mais c'est le passé. Maintenant, j'ai envie de m'occuper des plus démunis, de ceux qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue.
» Elle s'est retirée de la vie d'actrice assez jeune, en fait.
Je ne sais pas, parce que elle a rencontré Delon quand elle approchait de la quarantaine. Et
Avant que la vieillesse, enfin les années, l'attaque au visage.
Oui.
Ben moi, j'ai un souvenir d'elle au cinéma où elle est. Enfin, elle me paraît plutôt jeune, plutôt. Je ne le vois pas dans des rôles âgés, de femmes âgées.
De femmes mûres, non, jamais.
Non, elle a arrêté avant.
Mais une réflexion me vient sur les noms. C'est une actrice dont on se rappelle à travers un seul rôle, dont on n'arrive pas à trouver les autres films, qui a disparu des écrans depuis une bonne vingtaine d'années, et pourtant tout le monde connaît son nom. Alors n'y aura-t-il pas une magie du nom? Pourquoi ce nom-là, Mireille Darc, qui sonne comme un pseudonyme,
qui en est un,
a-t-il marqué les esprits si longtemps?
Mais elle a choisi Darc à cause de Jeanne Darc, justement, parce que c'était un nom facile à retenir. Et que bon, ben voilà.
Oh, j'ai lu ça dans les papiers qui ont été consacrés récemment. Elle disait, je voudrais devenir célèbre à tel point que les élèves écrivent Jeanne d'Arc D-A-R-C. Ce n'est pas arrivé.
Voilà.
Ou presque.
Je suis en train de regarder sa liste de films là sur. Internet Movie Database, mais en fait elle a joué en 2011, elle a joué en 2007, en 2003-2004 elle a fait 6 épisodes d'une série Franck Riva avec Alain Delon. En fait non, elle s'est pas tant arrêtée de jouer.
C'est nous qui avons disparu.
98 elle a fait de la télé en fait dans les années 90 et 2000, beaucoup de télé.
Oui, elle est retournée aussi. Elle a fait du théâtre aussi. Elle a fait une pièce de théâtre avec Delon sur la route de Madison qu'ils ont refait ensemble. Et ça a eu un franc succès.
Eh bien, c'est sorti en film aussi.
Oui, oui, oui.
Ils en ont fait un film en 2007.
Sur la route de Madison, c'est le film de Clint Eastwood.
Oui, oui, mais après la série, ils l'ont fait en théâtre et après, ils l'ont ressorti en film avec elle. Alors, dans les films... Oh là là, le retour du grand blond à la chaussure noire, c'est 74.
Ben ouais, ça marche.
Je m'en souviens.
Et le grand blond à la chaussure noire, c'est 72. Tu m'étonnes qu'on la connaît. Enfin, oui, je l'ai. C'était déjà vieillot quand on le regardait. Hein. Intéressant.
Bah non.
Attends,
bah
mais t'avais quel...
J'étais en pleine fleur de l'âge.
En 72?
Ah, j'étais pimpant, là. Oh, j'étais. Après, tout le reste a dégringolé. C'était une longue décadence après cette année glorieuse.
Oui.
Non, j'étais pas né. Bon, mets-nous une musique.
Alors, je vais vous mettre une musique. Hein. C'est une jeune chanteuse de ce qu'on appelle la chanson française, qui fait de la chanson française à texte, qui s'appelle Leïla Huissou. Huissoud, et je l'ai découverte dans une des podcasts que j'écoute, dont je vous parlerai après la chanson. La chanson s'appelle La Niaise, et c'est parti.
Et c'est tout de suite.
Thank you. voilà le temps de partir sans avoir personne où aller. Je sais pas quoi construire, mais pas d'envie, c'est pas de regret. Voilà le temps de vomir sur cet amas de gueules en biais à qui je sais plus quoi sourire, à qui je sais plus quoi causer. On en a bien parlé de l'époque de ces enfants qui savent plus aimer, mais comme faut bien vider les stocks, la logistique fait des bébés. La nièce voudrait pas virer conne, ça tient un peu de subtilité. Il paraît qu'à trop croire en l'homme, y en a quelques-unes qui se font baiser. Prends tes carnets puis deviens tout ce que t'as jamais supporté. Écris l'angoisse et le chagrin. Personne ne meurt sans se vider. On s'est dit, faut partir de rien et puis se faire tout seul avec du vide plein les mains. Tu l'imagines, ma petite gueule, le sourire paumé en chemin, parce que ça plaît plus à personne quand la gosse se change en chien et que le chien grogne. On en a bien parlé de la foi, celle qu'on met là où on peut, mais quand y a de la place pour une croix, y a des chances que ça sonne creux. Ta guitare, ton amour, c'est ta musique. Moi je vous dis que c'est mon désespoir, une vieille fille alcoolique qui demande à me voir tous les soirs, à m'inspecter les tripes. Elle prend ce qu'elle veut et elle se marre à le traîner en public. Ces chansons où le bout d'espoir se pointe à la fin, qui vous laisse pas sauter du bon sang. Ah nani, coussin.
Alerte, Katie vient de nous faire une révélation. Il se passe quelque chose à Auckland dont qu'on ignorait.
Donc je disais qu'il existe un festival du film japonais qui se déroule en ce moment, que tous ces films sont des films gratuits, que ça se déroule au cinéma Academy, qui est en dessous de la bibliothèque principale d'Auckland. Ce sont des films relativement récents, sponsorisés par les services culturels de l'ambassade du Japon. Et au début de la semaine prochaine, dans le même cinéma, il y aura le festival du film allemand qui va se dérouler aussi là-bas, au même endroit.
Gratuit.
Alors
aussi
gratuit.
Grâce à leur ambassade.
Voilà. Et la seule contrainte, c'est d'arriver suffisamment tôt pour pouvoir obtenir les tickets. Alors que pour le festival du film japonais, il suffisait de téléphoner au cinéma, de réserver des places, et puis en arrivant, on prenait ses places et on rentrait.
Je parlais pas de ça en fait, je parlais de cette chanson, de cette collaboration entre Miraida et Serge Gainsbourg, où il est question de petites culottes noires. Et on ne va pas regarder sur nos téléphones, parce qu'on va faire semblant d'être dans un monde révolu où les choses demeurent un peu mystérieuses. Et donc on va pas regarder le titre, on va juste imaginer un duo entre Gainsbourg et Dark, où il est question de petites culottes noires. Et ça m'inspire.
D'accord. Donc, Katie et moi, on était bien sûr le festival gratuit du film japonais et allemand. Romain a retenu que la petite culotte noire, c'est pas grave.
Or donc, il était question, il devait être question de podcast lors de cette
émission. Ah oui. Alors, eh ben, récemment, je me suis mise à écouter des podcasts. C'était pas du tout mon truc avant.
C'était pas ta vocation.
Non, pas du tout, pas ma vocation du tout. J'ai jamais été quelqu'un qui écoute la radio, enfin, les radios qui parlent. Ça a jamais été mon truc. J'écoute de la musique tout le temps, mais pas les radios qui parlent, parce que au bout d'un moment, je pars dans ma tête, dans mes pensées, et je loupe la moitié de ce qui se dit. Donc voilà. Mais je me suis mise récemment au podcast parce que je perds mon français, parce que ça fait bien trop longtemps que je suis ici et que je ne parle plus français au quotidien. Mais aussi, donc je veux entretenir mon vocabulaire. Et puis aussi parce que je commence à faire des activités où j'ai envie d'écouter des gens parler plutôt que de la musique. Voilà, donc je me suis mise à écouter des podcasts et du coup à chercher des podcasts francophones. Pas seulement français, mais francophones. Et je vais partager avec vous 8 podcasts que j'ai trouvés plutôt bien, que j'écoute régulièrement, qui sont mes petits coups de cœur. Alors, le premier, j'en ai déjà parlé il y a un petit moment à une émission. C'est un podcast qui s'appelle La Poudre. Je ne sais pas si vous en avez...
Non, pas du tout.
Alors, je recommande. C'est un podcast qui est fait par Lorraine Bastide, qui reçoit dans une chambre d'hôtel une femme exceptionnelle, alors une artiste, intellectuelle, politique, pour une conversation personnelle et sans tabou sur l'enfance, la carrière, le rapport à la féminité. Lorraine Bastide, érudite, éduquée, très très intéressante, et invite aussi des femmes très intéressantes. Donc c'est une podcast pour les femmes, faite par des femmes, mais en plus culturellement. Enfin, personnellement, j'adore. Donc la question, c'est comment les femmes qui font le 21e siècle ont-elles été façonnées par l'éducation qu'elles ont reçue, les invectives de la société, leur éducation, les rapports à leur corps, comment se construit-on en tant que femme aujourd'hui. Donc elle couvre un peu tout ça. Et puis elle invite des musiciennes, des écrivaines, des actrices, des danseuses, des réalisatrices, franchement, des femmes d'exception. Elle pose toujours une question qui semble désarmer beaucoup de ses invités et qui me fait rire à chaque fois. Quelle relation avez-vous avec votre utérus? Et ça les laisse toujours... Alors, il y a des réponses tordantes quand même à cette question. C'est vraiment la seule question un peu graveleuse, parce que sinon, ça reste très d'un niveau intellectuel très, très intéressant. C'est pas un podcast sur le sexe, c'est ça que je veux dire, mais c'est résolument un podcast sur les femmes créatives, entrepreneuses, vaillantes et intelligentes.
Anne-Sophie, je me permets de te demander, quelle relation as-tu
avec l'utérus? Conflictuelle, pour être honnête. Voilà, donc j'ai eu le temps de penser à cette réponse, parce qu'à chaque fois que j'écoute la podcast, je suis là, waouh, qu'est-ce que je répondrais à ça, parce que je sais pas comment je ferais.
La courtoisie président à cette conversation, il serait de bon ton que tu retournes la question à Katie, ou je me permettrai de le faire.
Non, tu ne peux pas te permettre. Je pose la question.
Là, c'est du sexisme.
Ah non, mais c'est pas une question qu'on a envie d'entendre d'un homme. Alors Katie, quelle relation as-tu avec ton utérus?
Empathie totale.
Ah bon? C'est dommage. Bon, alors, je disais bien donc que ce n'est pas une podcast sur le sexe, mais vraiment une podcast intéressante. Alors, je vous recommande l'épisode 15 avec Elena Noguera. Ça vous dit rien, ce nom?
Une chanteuse-actrice, femme de télé, brune. C'est tout.
Ah ben c'est pas mal, dis donc. Hein. C'est une actrice, réalisatrice, écrivaine et chanteuse belge qui est aussi la sœur de Lio.
Ah.
Voilà, c'est comme ça qu'on la connaît. Elle était aussi mannequin et très intéressante, fascinante comme femme. Donc je vous recommande le podcast 15 avec elle et le podcast 13 avec Océane Rosemary, qui est une comédienne et chanteuse étudiante à la Sorbonne. Elle a une vie fascinante. Elle part à 20 ans s'installer à Marseille. Elle démarre une carrière dans la chanson sous le pseudonyme d'Ocean, que vous connaissez peut-être. Elle sort 2 albums. Enfin bref, je recommande aussi Elle a écrit, voilà. Et surtout, elle s'est mise à faire du spectacle humoristique. Et en 2009, elle a sorti un one woman show sur l'homophobie, intitulé Océane Rosemary, la lesbienne invisible. Ça a eu un succès extraordinaire. Elle a joué ce spectacle 550 fois. Donc voilà, elle invite des gens, des femmes particulièrement intéressantes. Donc je recommande La Poudre, c'est mon préféré. Dès qu'il y en a un nouveau qui sort, ça sort toutes les deux semaines, il me semble. Là, c'est en break, je crois que ça revient en octobre. Mais il y a une vingtaine déjà de podcasts à écouter, donc ça vous laissera le temps d'attendre qu'elles reviennent. Voilà, donc ça c'était La Poudre. Le deuxième podcast que je vous recommande, c'est Ondelatte raconte. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion. Alors, quand on était enfant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait Pierre Bellemare. Pierre Bellemare vous raconte des histoires de faits divers. Bon, ben, c'est la même chose. C'est mon junk food de podcast. C'est mon Kardashian à moi. C'est pas de l'intellectuel, mais alors ça me fascine. Il est sur Europe 1. Et il propose, j'ai oublié de mentionner, le podcast de La Poudre, ça s'écoute sur Apple Podcast.
On mettra tous les détails sur le site.
Voilà, et Ondelatte, donc il est sur Europe 1, donc ça s'écoute soit sur le site d'Europe 1, soit sur Apple Podcast aussi. Et donc Ondelatte, Christophe Ondelatte, raconte des faits divers, souvent français mais pas toujours, parfois des faits divers étrangers. Et c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 17h à 19h en live, hein, si vous voulez écouter en live. Mais sinon, le podcast dure à peu près que 35 minutes. Je pense qu'il doit y avoir des coupures pub, etc.
On me disait à propos de... Tu disais écouter en live ou en différé. Enfin, il n'y a pas... L'idée du podcast, c'est d'écouter la radio en différé. Et avec le podcast, la radio a perdu son côté rituel où on avait hâte, on abandonnait tout et on allait se retrouver près du poste à écouter. Il y avait une petite messe domestique. Le podcast a changé tout ça, mais en même temps, enfin, je sais que pour ma part, j'aime faire certaines activités en écoutant. Je fais mon aspirateur ou je fais ma vaisselle en écoutant telle émission. Telle émission va mieux avec la vaisselle, l'autre avec le dépoussière.
Mais je suis d'accord, mais moi j'attends par exemple l'émission de La Poudre, je l'attends pendant deux semaines, et puis quand je sais qu'elle est sortie, que je la vois sur mon podcast, sur ma liste, bon ben je me prépare, je sais que je vais lui donner toute mon attention, j'en ai pour une heure, donc je m'installe un peu comme toi, à écouter, où je fais une activité qui fera pas de bruit et puis qui me permet de ne pas être concentrée sur ce que je fais, mais plutôt d'écouter. Donc je retrouve quand même ce moment où j'attends avec impatience l'émission et je lui donne mon attention.
Et la beauté de la radio, c'est qu'elle n'est pas aliénante comme la télé, où on ne s'y dissout pas. On continue à être, on continue à penser, on peut même faire des choses en même temps.
Et ce qui est bien avec les podcasts, c'est qu'on n'est pas contraint par le décalage horaire, parce que malheureusement, nous, on n'écouterait que les radios de nuit, quoi. Donc, bref, j'en étais à Ondelatte. Ondelatte, ça commence toujours par un crime. Et il nous raconte l'enquête. Alors il rajoute de la musique, des effets spéciaux, des sons, tu sais, des effets spéciaux. Mais surtout, il fait des voix avec des accents. C'est tordant, mais j'adore. Alors c'est à écouter, je recommande. Historiquement, c'est intéressant parce que on apprend des choses. J'ai appris comment le président Félix Faure est décédé récemment, ce que je ne savais pas.
Dans les bras d'une prostituée.
Non, pas vraiment dans les bras. C'est-à-dire qu'il avait un membre dans la bouche d'une jeune femme qui n'était pas prostituée d'ailleurs. Qui était sa maîtresse, mais qui n'était pas prostituée. Donc, c'est intéressant parce qu'il aussi, il raconte la vie de tous les jours à l'époque du crime.
Quelle belle mort.
J'attendais, j'étais là.
Au revoir, Romain.
Mais j'étais surprise de pouvoir. J'étais surprise de pouvoir continuer sans un commentaire
non,
de Romain.
Il fallait du temps pour aller sexy.
Elle parlait de quoi?
De ni de ses bras ni de ses.
Mais voilà. Non, non. C'est vrai qu'elle a.
Ni de ses mollets. Je me dis, mais quelle belle mort.
Moi, j'ai plutôt tendance à nommer les choses très concrètement, mais là, je ne sais pas si j'ai vraiment le droit. Alors, je me sens un peu pudique. Mais bon, sinon, j'ai pas de problème à dire les mots.
J'aurais pu dire son membre viril.
Oui, il aurait compris tout de suite.
Bref. Je reviens à mon podcast parce que là, on a perdu Romain. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il raconte la vie quotidienne à l'époque du crime. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, j'ai appris en écoutant un podcast sur un crime en 1870 que 20 000 personnes avaient assisté à une exécution à la guillotine. Et qu'à l'époque, c'était...
spectacle.
Ah ben oui, complètement. Bah oui. Oui, le directeur de prison à l'époque avait organisé un dîner de gala la veille au soir de l'exécution où il invitait des écrivains, des VIP, c'était incroyable. Et ensuite, les gens pouvaient visiter la morgue pour voir le corps. Donc c'était en 1870. Donc culturellement, on se rend compte vraiment que il y a un changement qui s'est fait. Donc
il y a un changement certes, mais on en est encore à regarder dans les émissions de télé-réalité.
Je suis d'accord avec toi, ou
même dans les radios crochets tel The Voice et des clampins, des petits gens à se faire humilier par des multimillionnaires, et on adore ça.
Oui. Ben oui, c'est pas faux. Le voyeurisme est passé à autre chose, mais à l'époque, voilà. Donc bref, moi je trouve ça intéressant. Je vous recommande l'émission du 11 août sur le meurtre de Suzanne Canson, de la famille des papiers Canson. Oui, oui, l'héritière des papiers Canson qui a été séquestrée. Alors très intéressante histoire, surtout que ça raconte comment le Louvre a été impliqué dans un achat illégal de peinture. Ça nous raconte la famille Canson. Enfin bref, ça a été très intéressant. Et puis l'émission, par exemple, du 12 août, l'histoire de Bruno Sulac, le gentleman braqueur en 1978, qui a réussi à, par son charisme, à faire ami avec tout le monde, même avec la police. Enfin, c'est assez intéressant. Donc, il raconte des histoires. Voilà, je vous recommande. C'est distrayant et intéressant.
Mais c'est aussi du contemporain. Bon, parce que là, Sulac, tu disais que c'était les années 70. Il parle aussi de faits divers plus récents.
Ah oui, 2017, oui, oui. Ou... Ah oui, il y en a. 2017. Non, mais il y en a de 2006, 2008. Il raconte des faits divers de cette époque-là. Mais il remonte aussi, oui.
Au 19e siècle.
Oui, oui. Beaucoup d'histoires différentes. Là, j'ai vu qu'il avait sorti un podcast sur le décès de Lady Di. Voilà, il y a un peu de tout. Alors, un autre podcast que je vous recommande, ça s'appelle 2 heures de perdu. C'est un podcast sur le cinéma. Et il vous raconte les 2 heures qu'ils ont perdues à regarder un film. Donc c'est un podcast indépendant qui revient chaque semaine sur un film pour en dire plus de mal que de bien. C'est hilarant. C'est vraiment très très drôle. Alors on l'écoute sur Apple Podcasts, mais aussi sur leur site 2hdp.fr, 2 heures de perdu. C'est très drôle. On a le sentiment de se retrouver à l'apéro avec des potes et à démonter le dernier film qu'on a vu. Leur présentation sur le site, c'est pourquoi gagner du temps quand on peut en perdre devant de mauvais films. 2 heures de perdu, c'est une bande de torcados avec des micros qui s'enfilent chaque semaine des films de l'enfer juste pour te faire patienter dans tes transports ou te faire marrer sur ton vélo elliptique que t'assumes pas. 2 heures de perdu, c'est aussi la culture de l'à peu près et de l'information potentiellement fausse. Donc ça dit tout. C'est drôle. Ce sont deux anciens Dijonnais désormais expatriés à Paris qui sont, je cherche leur nom, je les ai notés, Antoine Piombino et Michael Moreto, qui aiment se moquer gentiment de leurs attaches de Bourgogne d'ailleurs. Et je vous recommande d'écouter le podcast sur le film Die Hard, la tour de cristal en français, qui est tordant, où ils font tous les accents de Hans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Hans dans la tour de cristal, le terroriste allemand. Enfin, c'est très drôle. C'est entre 1h30 et 2h. Vraiment, vraiment très très bien. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, un peu moins drôle, enfin plus intellectuel, il y a l'émission de France Culture qui s'appelle Un été de lecture. Alors ça aussi, ça se trouve sur Apple Podcast et sur le site de France Culture. Alors France Culture a un rayon de podcast sur Apple Podcast qui est énorme. Vraiment, je vous conseille de France Culture, France Inter, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Leur avantage, c'est qu'ils peuvent être réécoutés pendant, en podcast pendant 1000 jours, pendant 3 ans. Et
sur leur site,
et sur leur site, mais sans podcast, indéfiniment.
Ouais. Ah oui, non, c'est
une belle librairie.
Incroyable tout ce qu'il y a. Hein. Alors l'émission Un été de lecture, c'est chaque dimanche, des lectures de grands textes de la littérature sont lues pendant une heure. Alors ça donne envie de lire, mais surtout on se fait faire la lecture et moi je trouve ça formidable. Ça permet de découvrir de la littérature, mais comme je viens de dire, on nous fait la lecture et alors là, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on nous fait la lecture avec la voix de Jean-Pierre Cassel, de Michel Piccoli, de Françoise Sagan et même de Marcel Pagnol. Alors je vous le recommande parce que c'est fascinant.
C'est un podcast d'été, ils auront quelques-uns, ils auront leur émission de.
Ils font ça d'été. Que pendant l'été, oui. Ouais. Ils font ça que pendant l'été, mais c'est une heure tous les dimanches, donc il y en a plusieurs à écouter. Et j'ai écouté celui où c'est un vieil enregistrement de Marcel Pagnol. Bon, bah c'est ça. Bah oui, voilà. C'est,
comment tu disais ?
On entend les cigales.
On entend les cigales.
Carrément, on entend les cigales. Alors je vous recommande ça. Un autre podcast de littérature sur France Culture, c'est l'Atelier Fiction. Je l'ai pas encore écouté, mais il est sur ma liste de prochaines. Alors c'est plutôt des textes souvent inédits de théâtre, de fiction qui sont lus. Donc à voir. Ça me paraît intéressant. Donc ça c'était pour la lecture. Un autre podcast que j'écoute sur Apple Podcast et sur SoundCloud, on trouve plein de podcasts aussi sur SoundCloud, s'appelle C'est cool, c'est quoi? Alors, C'est cool, c'est quoi? C'est comme un documentaire, mais audio. C'est un podcast qui explore et analyse des passions. Alors, la personne qui organise le podcast, qui fait la rubrique, s'appelle Nekoto, nous invite à explorer les univers de gens passionnés et passionnants. Des débats articulés autour de questions humaines, culturelles, sociales, techniques et pratiques. Vous avez toujours voulu en savoir plus sur les passions obscures de vos proches? C'est le podcast qu'il faut écouter. Alors, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux mondes. On peut écouter quelqu'un raconter sa passion du roller derby. Un passionné de films d'horreur qui va parler de tous les films cultes et pourquoi, et voilà. Ou passion de Star Wars. C'est vachement intéressant. Ça me rappelle une émission documentaire qui date des années 90 qui s'appelait Striptease, qui passait tard le soir en France. Je sais pas si vous vous souvenez. Où en fait, on savait jamais ce qu'on allait voir. Ça filmait des gens dans leur quotidien. Ça fait un peu ça. Ça a un peu ce côté. Ça dure entre une heure et demie et deux heures. Documentaire sonore. Moi, je trouve ça. Enfin, encore une fois, on se sent dans le salon des gens, en train de les écouter, nous raconter leur passion. Je trouve ça intéressant. Voilà. Qui va vous donner envie de manger, ça s'appelle On va déguster.
Et si on écoutait une musique?
Tu veux de musique?
Pendant l'apéro, avant de passer à table.
Bon alors, une musique. Hein. Alors attends, parce que moi j'étais au milieu de mes podcasts. J'ai pas de musique préparée. T'en as préparé une?
Oui, j'en ai toujours de préparer. Des musiques. La musique. Je fais des essais.
Alors, on continue les podcasts après la musique de Romain.
Vous écoutez les prénoms effacés.
Ah non, mais il nous a eu là, il nous remet nos soutiens aussi.
Non, c'est Jean Tranchant.
Aïe, aïe, aïe.
Dans le creux béant d'un grand chêne, des fourmis rouges font la chaîne. Ce range creux de fond mille efforts contre le vieux géant qui dort. Mais les jours d'été il cède, il conserve de si beaux rêves, tant de jolis prénoms d'amants qui disparaîtront lentement. Combien d'amoureux il a vu passer, combien de prénoms se sont enlacés, combien de serments, de fausses promesses se sont échangés sous son ombre épaisse, combien d'amoureux libres de plaisir ont gravé gaiement leurs souvenirs. Qui dira le sort des amants lassés, dont les doux prénoms se sont effacés. Sous le regard d'une personne, nous avons gravé ces toutes nos prénoms, en nous promettant de les retrouver au printemps. Mais le chêne, aux saisons fleuries, retrouvant un peu de sa vie, gardera-t-il au plus beau jour le grand secret de notre amour? Combien d'amoureux il a vu passer, combien de prénoms se sont enlacés, combien de serments, de fausses promesses se sont échangés, sont répètes, combien d'amoureux vivres de plaisir ont gravé gaiement tous leurs souvenirs. Qui dira le sens des amants lassés, dont les prénoms se sont effacés.
C'était Jean Tranchant chantant, oui, ben, les prénoms effacés. C'est assez émouvant. C'est assez mouvant, moi j'avais la larme à l'œil tout le temps.
Non mais j'avoue que j'écoutais pas les paroles, donc j'imagine.
Oui, là, c'est vrai, il faut écouter les paroles. Là.
La tronche de Cathy et moi, vous devriez avoir la vue du studio, parce que quand on a vu ce... Bon, je non, reprends le câble, je reprends le câble et je mets la prochaine chanson. Merci
qui,
Romain.
Qui est beaucoup plus péchu.
Oh, beaucoup plus péchu?
Oui.
Ok. Alors, on continue avec les podcasts et je vous promets que je mets la prochaine chanson. Alors, c'est cool, c'est quoi? On vient d'en parler. Donc, le prochain podcast que je vous recommande, je viens de le découvrir, on me l'a recommandé il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle « On va déguster ». Avec François-Régis Gautry. Donc c'est une émission hebdo, donc elle passe en live le dimanche de 11h à 12h, donc vous la trouvez sur podcast aussi, et c'est une émission qui passe au grill toute l'actualité et la gastronomie, donc c'est un sacré mélange. Faut pas avoir faim quand on écoute ça, vaut mieux l'écouter en faisant la vaisselle après le repas. Parce que c'est franchement appétissant. Alors c'est un podcast sur l'actualité ou sur un thème choisi, ça dépend, avec ou sans invité. Mais il y a toujours une chronique cuisine et une chronique vin. Et puis on découvre aussi des chansons françaises. Donc c'est une bonne sélection. Je vous conseille le podcast du 11 juin, qui est un podcast spécial Bourgogne, où il a invité Cédric Lapiche. Qui vient justement de sortir son film Ce qui nous lie, qui se passe, qui est une comédie dramatique au cœur de la Bourgogne. Et alors là, c'est un échange de bouffe et de vin et de cinéma et c'est fascinant. Je le recommande. Donc ça, c'était le podcast On va déguster. Le prochain podcast dont je vais vous parler, ça s'appelle Chanson Boom de France Culture. Présenté par Hélène Azéra. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Hélène Azéra. Non? Alors, Hélène Azéra est spécialisée dans la chanson depuis une trentaine d'années. Elle est ex-journaliste à Libération. Elle est aussi actrice. Enfin, elle était actrice, plus maintenant. Réalisatrice de documentaires. Mais surtout, c'est une des doyennes transsexuelles en France. Et puis, surtout, connue puisqu'elle était dans le cinéma et dans les news. Donc c'est un magazine éclectique consacré à la chanson francophone internationale, donc pas seulement française, qui propose des rencontres avec des acteurs de la chanson contemporaine. C'est léger, les interviews sont pas aussi poussées que sur La Poudre, mais j'aime assez. C'est plus porté sur la musique, sur la chanson, sur l'écriture, sur la personnalité de ces chanteurs. Elle rentre un peu dans leur intimité, et puis surtout les artistes invités chantent souvent live pendant l'émission, donc très agréable. Podcast d'une heure, je vous recommande le podcast du 19 mai avec Barbara Veldens, qui est malheureusement décédée récemment sur scène, dont on a parlé il y a quelques émissions. Si vous voulez l'entendre en live et puis entendre son interview avec Hélène Azéra. Et enfin, je vais vous parler de LSD, la série documentaire, qui est une série sur France Culture. Documenter toutes les expériences de la vie, des cultures et des savoirs. Chaque semaine, un grand thème en 4 épisodes, autonomes et complémentaires. En ce moment, LSD, la série documentaire, est en partenariat avec Tank, la plateforme du documentaire d'auteur. Donc, je vous conseille la série de 4 épisodes en juin, qui était sur l'art de 1917. Alors, fascinant, parce que moi qui suis dans les arts, j'ai jamais pensé à quel point l'art et la culture artistique de l'époque a été influencée par la guerre, et à quel point la Première Guerre mondiale a changé le paysage artistique européen et surtout français. Donc fascinant à écouter. Pareil, c'est une série documentaire, donc pas seulement on vous raconte, c'est pas une lecture, un cours, comment on dit, un cours magistral. C'est très intéressant. Et puis on m'a aussi, quand j'ai dit que je faisais un podcast là-dessus, on m'a aussi parlé d'autres podcasts de France Culture que je ne connais pas, mais je vais les essayer. C'est Une vie, une œuvre, par bien. Irène. Ah voilà, tu l'écoutes, hein.
Je l'ai écouté longtemps.
Par Irène Omeliamnenko. Une vie, une œuvre décide chaque samedi à 16h le portrait radiophonique des femmes et d'hommes d'exception. Donc oui, ça a l'air très intéressant aussi. Les chemins de la philosophie aussi sur France Culture par Adèle Van Riet.
C'est très bien, oui.
Tu écoutes aussi, j'ai pas encore essayé, donc à voir. Et puis Fiction, le samedi soir de 20h à 21h, mais aussi en podcast. Un rendez-vous destiné au grand public. Ces fictions auront pour mission de nous émouvoir, nous divertir, nous intriguer. Donc ça a l'air d'être dans la lignée des romans sonores.
Oui. Qui ont disparu de la radio. Mais malheureusement, parce que j'aimerais en écouter, mais les rares que j'ai écoutés récemment se montraient assez pauvres en termes de jeu, de production, c'était un peu léger, ça faisait vraiment un peu poussiéreux.
Ceux de Fiction ou... de non, fiction, t'as pas essayé Fiction de France Culture.
J'ai hâte d'écouter cela, oui.
Oui, je vais l'essayer aussi, ouais, ça a l'air pas mal. Donc voilà, c'est la série de podcasts. Alors il y a un peu de tout, hein, de la musique, de la littérature, du féminisme.
Et vous trouverez tous les liens et les titres sur le site.
Oui, je vais mettre les liens et tout. Oui.
Super. Et toi, Katie? Merci, merci beaucoup. Et toi, Katie, c'est quoi tes émissions, tes émissions préférées?
En fait, moi, je suis très France Culture.
Très France Culture.
Oui. Je suis très éclectique. Moi, ça peut aller, ça part dans tous les sens. Ça peut être une. J'ai entendu parler d'un truc, voilà. Ou sinon, voilà, je vais au hasard. Et je me dis, tiens, ça m'intéresse bien, je vais au titre, au feeling.
Donc tu jettes les dés, mais tu n'as pas ta librairie, bibliothèque
Non, pas du tout. Et c'est pareil dans mes lectures. Mes lectures sont pareilles. C'est vraiment très éclectique. Ça peut être le livre que je trouve, parce que bon, le quartier où j'habite, il y a des espaces où les gens laissent des livres que d'autres passants peuvent emprunter, prendre, échanger. Donc généralement, moi, je passe là, je vois un livre et je me dis, tiens, ça me plaît, ça m'intéresse, je prends. Sinon, c'est vraiment super divers. Là, je viens de finir L'amour du temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Je vais partir sur un autre bouquin.
voilà, ça part dans tous les sens.
Oui, ça part très loin de notre sujet, effectivement.
C'est ça. Mon écoute est aussi
éclectique. L'esprit d'escalier.
Voilà, mais mon écoute est aussi éclectique que mes lectures, voilà.
Bon, puisque vous me demandez, moi j'adore. C'est...
Oui, 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 effectivement.
Ah oui, et toi, Romain, oui, oui, qu'est-ce que tu écoutes?
Ah bah si vous êtes. Non, j'ai ma voix, j'ai ma petite bibliothèque grâce à iTunes. Et tu sais pas comment ça marche, donc ouais. on va t'expliquer. Peut-être que je vais laisser notre technicienne en chef t'expliquer comment constituer sa boîte à podcast.
Alors, comment constituer sa boîte à podcast? C'est assez facile. Vous allez soit sur le site donc de France Culture, France Inter, Europe 1, et là, il y a toutes les émissions qui sont en écoute facilement, donc sur n'importe quel n'importe quel ordinateur. Vous pouvez Google la poudre, on de la raconte, et vous tomberez sur le site où ils sont diffusés. Mais l'autre possibilité qui est facile aussi, c'est d'avoir au travers d'un iPod ou un téléphone Apple, d'utiliser le Apple Podcast, donc qui est une application qui vient avec le téléphone. C'est pas une application que vous avez besoin de downloader. Pendant très longtemps, moi, je l'ai pas utilisée. Je savais qu'elle était quelque part dans le téléphone, mais je l'avais pas utilisée. Et grâce à cette application, vous pouvez sélectionner des émissions qui vous plaisent, les mettre ensuite dans votre bibliothèque et c'est downloadé dès que l'émission dès qu'il y a une nouvelle émission de sortie. Donc ça vous permet de voir tout de suite qui a une nouvelle émission à écouter. Si tu n'as pas Apple, tu peux soit downloader iTunes sur ton ordinateur, et ça, que vous ayez un PC, un Apple, vous pouvez downloader iTunes, et là, ça permet aussi de garder sa bibliothèque de podcasts. Alors, si vous le faites sur votre téléphone, bah, c'est pratique, parce que comme je disais, moi, je l'écoute dans la voiture en allant au boulot ou à la gym ou voilà. Mais méfiez-vous, ça prend de la place. Ça prend de la mémoire iCloud, en fait. Et je me suis rendu compte récemment que je recevais un message d'iCloud me disant qu'il était plein à bourrer, à craquer, qu'il fallait que je fasse du vide et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'était tous les podcasts qui se downloadaient automatiquement. Donc, méfiez-vous de l'automatique. Il faut plutôt le mettre en manuel et puis downloader à chaque fois que vous écoutez. Voilà. Alors, Romain, t'écoutes quoi?
Alors j'ai mes émissions, pas beaucoup, c'est comme des amis, j'en ai très très peu. vous riez, ce qui est une transition terrible vers un sujet qui est encore douloureux, c'est la disparition de l'esprit public, une émission qui avait fait les beaux jours de France Culture pendant 17 ans, animé par l'immense, le génial Philippe Meyer, où c'était quatre personnalités toujours les mêmes, mais qui se renouvelaient, qui parlaient de sujets de politique, et c'était dans un esprit de grande courtoisie. C'était toujours intelligent, c'était toujours très intelligent, et voilà, du jour au lendemain, voilà, ça s'est pas renouvelé. Sinon, j'écoute Réplique de Finkielkraut, dont on peut ne pas aimer les idées, mais qui se mesure à des détracteurs, sont des débats à trois. Bon, malheureusement, c'est souvent deux contre un, mais en tout cas, ça permet aux idées de s'exprimer. Et c'est
politique, c'est, débat politique sur l'actualité
de faits sociaux, mais qui tournent toujours autour des obsessions de Finkielkraut, qui sont l'immigration, l'islam, l'école beaucoup, la langue française, et puis la philosophie, des sujets de littérature, beaucoup de sujets de culture qui ont trait à la culture juive aussi. Mais en tout cas, on y apprend toujours quelque chose. Et puis un classique, le Masque et la Plume, qui existe toujours, animé par Jérôme Garcin, qui parle de cinéma, de théâtre et de livres. Enfin, je veux dire que j'ai une petite préférence sur le cinéma. Et voilà. Voilà mes habitudes radiophoniques. Alors, avant que je ne vous passe un méchant tube de l'automne 1934,
non,
peut-être que tu as un meilleur choix.
Oui, non, on arrête là. On arrête les tubes.
Non, il est bien celui-là. Mm-hmm.
Ouais. Alors, on va repasser à Leila Ouissou, que j'ai donc découvert dans l'émission de Chanson Boom de Elena Azera. Et cette chanson, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre La Vieille. Voilà. Merci Romain.
Merci à toi.
J'ai pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez, vous m'encombrez, dit la vieille en sautant. Pieds joints sur sa valise, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles et d'un pas décidé vers la gare Saint-Lazare. Tandis qu'on faisait semblant de pleurer son départ, elle s'en allait gaiement, son bagage à la main, avec deux ou trois pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur, pour porter ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château où les vieux jouent au Scrabble et aux petits chevaux. Moi, j'ai horreur de ça, comprenez-vous, monsieur? Je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher. Je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier mes draps, laissez-moi, j'ai affaire. Alors de sa valise, à l'abri des regards, elle sortit 20 bouteilles d'un célèbre pinard. Descendit au salon où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux en se grattant l'oreille. Bonsoir messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon. L'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon? J'ai pas besoin de vous, dit-elle au médecin, en élevant vers lui son troisième verre de vin. Tandis que les vieillards autour de la pendule chantaient à quatre voix la grosse bite à Dutulle. Et l'on vit ce spectacle ô combien ravissant, de 80 gâteaux quittant l'établissement afin de ratisser les auspices du pays, arrachant à la mort des moribonds surpris. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au curé, qui au chevet d'un vieux s'esquintait à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort, s'il ne respire plus. Par contre, il bande encore. Un petit coup de branlette le remettra sur patte, comme un coup de manivelle sur une vieille juve à quatre. Le prêtre révulsé tombait les bras en croix. Il respire.
Collaboration. Mais avant d'aller retrouver le chevalier Tempête, nous allons écouter Mireille Dard.
Micro,
Mireille.
Avant de partir.
Et Serge Gainsbourg.
On vous quitte là-dessus, c'est merveilleux. On a trouvé la chanson.
On a trouvé une chanson de Gainsbourg. Bonsoir.
Avec Mireille Dard.
À très très bientôt, merci.
Au revoir, à bientôt.
On l'a à peine répété.
À peine répété, faut donc avoir beaucoup d'indulgence. Nous allons avoir une petite pensée particulière pour vous.
Non, on a ça.
Ce sera sûrement très très bien. Continuez. guillemets.